Ces dernières semaines, lorsque j'ai eu l'occasion de prendre la parole, nous avons parcouru ensemble quelques aspects, quelques épisodes de la vie du prophète Élisée. Et je vous propose un dernier épisode qui n'est pas le dernier dans le récit biblique, mais notre calendrier nous amène aussi à faire ces sélections. Nous lisons donc un récit qui fait suite à une annonce d'un temps de la description d'un temps de paix que le Seigneur avait permis, mais où on retrouve de nouveau des tourments qui vont donner lieu à une délivrance. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24. 2 Rois 6, à partir du verset 24, et je le lis dans la version du Semeur. Donc il est décrit un temps de paix entre la Syrie et Israël. Quelque temps plus tard, nous dit le récit, Ben-Hadad, roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège à Samarie, capitale d'Israël, royaume du Nord. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait, au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria, « Viens à mon secours, mon seigneur, le roi !» Et il répondit, « Mais si le Seigneur ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je, moi, te secourir ? Je n'ai ni blé, ni vin à te donner. » Pourtant, le roi ajouta, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle répondit, « Cette femme-là m'a proposé, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils, nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. » Lorsque le roi entendit ce récit, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, tout le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élisée se tenait dans sa maison avec les responsables de la ville. Le roi envoya quelqu'un chez lui. Mais avant que l'émissaire soit arrivé, Élisée avait dit aux responsables, « Ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête ? Faites attention, quand vous verrez venir cet émissaire, fermez la porte pour l'empêcher d'entrer. N'entend-on pas déjà d'ailleurs le bruit des pas de son maître derrière lui ?» Il n'avait pas fini de parler que déjà l'émissaire du roi arrivait. Le roi dit à Élisée, tout ce mal vient de l'Éternel, que puis-je encore attendre de lui ? Alors Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à cette heure, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. L'aide du camp qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel perçait des trous ou des fenêtres dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ?» Élie répliqua, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient, à l'extérieur, quatre lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, « À quoi bon rester ici, attendre la mort ? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. » Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'il nous faut mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils se préparaient donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant de chars et de chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, « Le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. » Ainsi, pour sauver leur ville, ils se levèrent, s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, laissant le camp tel quel. Lorsque les lépreux furent arrêtés, à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente. Ils mangèrent et burent tout ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent, ils pénétrèrent dans une autre tente, prirent ce qu'ils trouvèrent et allaient encore le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Ce que nous faisons là n'est pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. » Ils retournèrent à la ville, ils appelaient les sentinelles qui firent ce rapport. « Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens, et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine, il reste seulement des chevaux, des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. » Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais royal. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres, « À mon avis, voici ce que les Syriens sont en train de machiner contre nous. Ils savent que nous sommes affamés. C'est pourquoi ils ont quitté le camp pour se cacher dans la campagne. Ils doivent se dire, les assiégés vont sortir de la ville. Alors nous les saisirons vivants et nous pénétrons dans la ville. » L'un des ministres proposa la chose suivante. On pourrait quand même envoyer peut-être quelques hommes et cinq chevaux qui nous restent encore dans la ville. Nous n'avons rien à y perdre, car ils connaîtront le même sort que celui de toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville et qui va vers sa fin. Envoyons-les donc et nous verrons bien. On équipa donc deux chars attelés de chevaux, et le roi envoya une patrouille à la recherche de l'armée syrienne en leur disant d'aller voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Les hommes virent la route toute jonchée de vêtements, de matériel que les Syriens avaient abandonné dans leur précipitation. Ils revinrent faire leur rapport au roi. Alors le roi de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. Et c'est ainsi que l'on put acheter 10 kilos de farine fine ou 20 kilos d'orge pour une pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Le roi avait chargé son aide de camp qui l'accompagnait de surveiller la porte de la ville, mais celui-ci fut piétiné par la foule et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait annoncé au moment où le roi était venu le trouver. En effet, c'est à ce moment qu'il avait dit au roi, « Demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on pourra acheter 20 kilos d'orge et 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent. » Et l'aide du camp avait répliqué, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ?» À quoi Élisée avait répondu, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est bien en effet ce qui lui arrivera. La foule le piétina à la porte de la ville et il mourut. Jusqu'ici, notre lecture. On est parfois bien surpris quand on lit les récits bibliques au fil du texte. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous lisions ces récits étonnants où Dieu a fait bénéficier son peuple de la connaissance qu'il a de toutes choses. Dieu a utilisé cette connaissance pour mettre fin à la guerre avec ses pays voisins. Le Seigneur révélait à Élisée les plans top secrets que l'état-major des armées syriennes élaborait. Et c'est ainsi qu'il a mis fin à ses plans d'hostilité. Pour apaiser l'hostilité entre les deux peuples, le Seigneur a ensuite ordonné au roi d'Israël d'user de bonté et de générosité envers ses ennemis. Une troupe était venue capturer Élisée et elle s'est retrouvée aveuglée. Mais ensuite, au lieu d'être massacrée, le Seigneur a ordonné que cette troupe soit rassasiée d'un grand festin à Samarie. Dieu manifeste ainsi qu'il est un Dieu de paix, un Dieu qui accorde la paix, un Dieu qui nous invite à être artisans de paix. C'est ce qui ressort du contexte de notre récit, ce que nous avons lu donc dimanche dernier. Et voici maintenant soudain tout autre chose. Après la paix, la guerre. Samarie, qui avait été autrefois tellement bien protégée par le Seigneur, par ses interventions, est à présent assiégée. Dieu, qui avait déjoué à l'avance toutes les menaces syriennes, n'intervient pas, même alors que la situation atteint des extrêmes pour les assiégés de la ville de Samarie. Que se passe-t-il? Que dire? Que penser de tels revirements, de tels sauts, si difficiles à comprendre, à intégrer, à vivre surtout? J'aimerais peut-être attirer d'abord notre attention sur les premiers mots de notre texte. Il est dit « quelque temps plus tard » ou « et voici juste après ces choses » ou « après ces choses ». C'est le verset 24 du chapitre 6. Il y a là une indication chronologique assez vague. Elle ne permet pas de situer les événements avec précision du point de vue historique. Par contre, il me semble que cette petite indication pose une question qui est spirituellement féconde. Quelque temps plus tard, nous est-il dit. Et la question qui se pose est celle qui concerne l'impact de l'action de Dieu dans notre vie. Le roi de Syrie a été témoin des ressources de connaissance, mais aussi des ressources de miséricorde du Dieu d'Israël. Suite à cela, il a cessé ses incursions militaires en Israël. Mais quelque temps plus tard, nous est-il dit, le voilà de nouveau qui mobilise ses troupes contre Samarie. La question qui nous est posée ici est de dire combien de temps durent les effets d'une bonté de Dieu dans notre vie ? Combien de temps durent les effets d'une bonté de Dieu dans notre vie ? Combien de temps pour que le naturel revienne au galop comme ici on le voit tristement ? Quand on voit le roi de Syrie reprendre ses vieux chemins après les avoir laissés un temps, on ne peut s'empêcher de réfléchir aussi à notre propre vie. Quand Dieu nous a fait du bien, quand Dieu nous a pardonné, quand Dieu nous a délivrés d'une situation difficile, on sait parfois, et ça, on a tous vécu cela, on sait parfois juré sur le coup qu'on n'oubliera jamais, qu'on changera, qu'on aimera le Seigneur de tout notre cœur, tellement il nous a fait du bien. Combien de temps durent ces bonnes dispositions ? Le prophète Osée devait dire à Israël cette fois-ci, « Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe bien vite. » C'est ce qui se passe ici, ce qui explique que le roi de Syrie reprenne ses vieux chemins de guerre. Le souvenir des bienfaits reçus n'a duré qu'un temps. Combien de temps durent ces choses dans notre cœur ? Et pour le roi d'Israël, la même question se pose, cette question des délais. Qu'a-t-il fait de ce temps de paix qui lui a été accordé grâce aux interventions de Dieu ? Comment a-t-il utilisé ce temps de paix ? Quel chemin a-t-il fait vers Dieu après avoir beaucoup reçu ? Il a vu les miracles, les interventions de Dieu, il a été au bénéfice de ces miracles, il n'avait rien demandé, Dieu lui avait tout donné. Qu'a-t-il fait de cela ? On ne voit pas de franc retour vers Dieu. Il a de l'estime, du respect pour Élisée, mais ce temps de paix, qu'en a-t-il fait spirituellement ? Les moments de crise, les moments de choc sont souvent des moments qui nous font beaucoup réfléchir. Mais ce qui compte aussi, c'est ce que nous faisons après, ce que nous faisons lors des temps de paix, lorsque la crise est passée. Les temps qui suivent les crises sont des temps de bénédiction, quand Dieu nous donne la paix, mais ils sont aussi des temps de responsabilité, où il nous faut construire, donner corps dans notre vie à ce que Dieu a fait ou était pour nous. Veillons aussi à tous ces temps de notre vie. Veillons pour que le Seigneur puisse toujours travailler en nous, affermir son œuvre. En tout cas, ce qui se passe après, avec ce siège de Samarie, résulte en grande partie du fait que les deux rois de Syrie et d'Israël n'ont pas su utiliser constructivement la chance de paix que Dieu avait rendue possible. Et voilà donc la guerre qui nous est présentée ici, le siège d'une ville, la guerre avec ses tourments, ses atrocités. Le texte nous donne une image de la situation après des semaines de siège à Samarie. Les quelques misérables produits qui sont encore disponibles au marché noir sont hors de prix. Une tête d'âne, bien peu à manger hein, sur une tête d'âne, hein. Une tête d'âne coûte 80 pièces d'argent, c'est colossal comme valeur. En plus, l'âne, c'était un animal considéré comme rituellement impur, on n'avait pas le droit de le manger. Vous voyez combien ça coûtait. Une livre de pois chiches, quant à elle, coûtait 5 pièces d'argent. Alors, il y a des discussions ici, hein, est-ce que c'est une livre de pois chiches ou des bulbes d'oignons sauvages ou de fientes de pigeon qui servait à cuire, mais à cuire quoi en l'occurrence ? Enfin bref, donc une situation économiquement désastreuse. C'est la lutte pour la survie, l'extrémité la plus totale. Et juste après ces considérations économiques, le texte nous rapporte horrible épisode qui dit jusqu'où va l'extrémité, jusqu'où peut aller l'extrémité dans ces situations-là. Deux femmes ont décidé, contraintes, on ne sait comment par la situation, de manger leur propre enfant. Un pacte impensable, d'abord un puis l'autre. Après le meurtre du premier, la mère du second recule, cache son petit. La première crie à l'injustice, elle réclame le petit de l'autre. Vous vous rendez compte de cette demande? Après avoir donné le sien, l'horreur. Les limites dépassées, des vies dévastées, marquées au fer rouge. Après ça, comment est-ce qu'on se relève? Et c'est ici une description de l'horreur de la guerre et de ses extrémités. Il nous faut l'entendre. Notre langage sur la guerre se veut beaucoup plus propre, beaucoup plus aseptisé, et c'est d'actualité. On veut nous faire croire à des guerres propres, à des frappes chirurgicales, sans autre conséquence que la description d'objectifs précis que l'on maîtrise. On oublie le cortège d'horreur qu'engendre tout conflit. Pour nous, dans l'actualité récente, la guerre du Mali a pu à bien des égards nous conduire à une vision complètement trompeuse d'un conflit qui ne serait qu'une formalité. Il n'y a pas eu que 5 morts lors de la guerre du Mali. Il y a eu 5 soldats français morts. Mais ce n'est pas le résumé de la guerre du Mali. Il y a eu bien d'autres choses et comme partout, un lot d'horreur. Et alors qu'une nouvelle intervention armée est envisagée, il faut juste veiller à peser ce poids réel des choses. On ne peut pas, sans peser ce poids, passer d'une guerre à l'autre comme s'il s'agissait d'une simple formalité ou d'une affaire entre dirigeants qui vont se donner des leçons les uns aux autres. Il y a des peuples qui peuvent souffrir. Aucune légèreté, aucune simplicité ne sont acceptables ici, ne sont ici de mise. Et c'est pourquoi il me semble juste, en tout cas, par rapport à la Syrie actuellement, que l'on cherche ardemment et prioritairement les voies qui peuvent favoriser un apaisement plutôt qu'un durcissement, une solution de justice relative plutôt qu'un chaos généralisé. Est-ce possible? Nous ne le savons pas. Mais il vaut la peine de prier dans ce sens et d'écouter ceux qui cherchent à éviter de plonger les populations dans encore plus d'horreur. L'horreur de la guerre, l'horreur de ces situations, il nous faut nous en rappeler. Après nous avoir décrit l'horreur, ce récit nous révèle l'impuissance et le désarroi qu'engendrent ces situations d'extrémité. Et ici, c'est le roi d'Israël en personne qui les illustre. Il est interpellé publiquement par la femme qui a tué son enfant. Elle l'appelle au secours et il répond par une parole d'impuissance. « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je, moi, te secourir ?» Il y a là un aveu d'impuissance. Et c'est pas toujours facile, même pour des personnes en situation de pouvoir, qu'on croit en situation de pouvoir, de faire face à ces réalités d'extrémité. Impuissance donc, mais probablement aussi, me semble-t-il, avec une pointe de révolte. Car dans sa formulation, quand il dit « si l'Éternel ne vient pas à ton secours », il me semble qu'il y a aussi partiellement une accusation. Le roi est aigri. Le Seigneur ne vient pas lui-même à ton secours. Comment pourrais-je, moi, te secourir? Vous voyez, petite pointe d'accusation contre le Seigneur. On le sent en colère contre Dieu qui n'intervient pas. Et lorsque la femme lui raconte l'horreur de leur geste, le roi déchire ses vêtements en signe de consternation et on découvre alors qu'il porte des habits grossiers à même la peau. C'était un signe de deuil, de désolation, de contrition. Et soudain, une parole éclate, tranchante. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Pourquoi cette arrogance soudain contre Élisée? Une première raison, me semble-t-il, réside certainement dans les pensées d'accusation qu'il nourrissait déjà contre le Seigneur qui ne faisait rien pour les délivrer. Et c'est vrai que dans cette grille de lecture où on accuse Dieu de ne rien faire par rapport à la situation que l'on connaît, il est sûr que l'horreur du geste de ces deux femmes accentue l'hostilité contre Dieu. Et cela nous invite, me semble-t-il, à veiller aux racines de révolte dans notre cœur. une racine amère qui est là, qu'on laisse un petit peu macérer, a vite fait de provoquer d'autres rejetons. C'est une première raison, avoir laissé développer ces racines d'amertume et de révolte. Mais probablement qu'une deuxième raison est le besoin d'avoir un responsable quand on se trouve en situation incompréhensible. On trouve ça régulièrement et depuis toujours. Il faut un bouc émissaire, il faut quelqu'un qu'on puisse accuser de ce qu'on ne maîtrise pas. Et c'est vrai qu'ici, Élisée est une victime toute trouvée. Il avait manifesté, des années auparavant, la puissance de déjouer les plans des généraux syriens. Et là, maintenant, il ne l'a pas fait. Il est donc responsable de la situation. C'est le raisonnement qu'on peut faire. Et voilà comment un bienfait rendu peut se retourner contre son auteur. Il suffit que l'on oublie qu'un bienfait est un bienfait, que c'est un bienfait gratuit, et qu'on en fasse un dû, une obligation. Le roi ici, s'il accuse Élisée de ne rien faire, a complètement oublié que le Seigneur et Élisée n'étaient pas obligés de lui venir en aide quand il l'avait fait quelques mois auparavant. Le roi ne les avait même pas consultés, il avait tout reçu. Et là maintenant, il adopte de nouveau la même posture. Il ne va pas vers Élisée, par exemple, pour lui demander de prier ou de supplier Dieu d'intervenir. Il vient en considérant que l'intervention de Dieu est un dû pour lui. Et comme elle n'a pas lieu, il accuse et fait porter à Dieu et à son serviteur la responsabilité au lieu de s'interroger aussi sur lui-même et sur sa démarche. Seigneur, garde-nous souples devant toi. Garde-nous justes devant toi. Apprends-nous à te chercher humblement en toute situation plutôt qu'à nous dresser orgueilleusement. Il semble que d'autres ont adopté une attitude différente que celle du roi, car les responsables de la ville de Samarie sont, eux, en réunion avec Élisée au moment où le roi profère sa menace. Ils semblent venus dans d'autres dispositions. Élisée fait preuve à cette occasion de sa clairvoyance donnée par Dieu. Et alors que le roi a prononcé cette parole bien loin de lui, bien loin d'Élisée, Élisée annonce à l'avance la venue de l'envoyé du roi et ses intentions agressives. Rien donc n'a changé quant à la maîtrise du Seigneur sur le cours des événements, quant à sa capacité à le révéler aussi à son serviteur. Élisée est divinement averti des projets du roi d'Israël cette fois-ci. Et c'est pourquoi la porte restera fermée au roi et à son messager. C'est vrai peut-être par protection pour Élisée, c'est vrai aussi symboliquement parlant et spirituellement parlant. Le Seigneur ne nous ouvrira jamais sa porte là où nous nous approchons avec de mauvaises dispositions. C'est aussi ce que le roi découvre ici, alors qu'il s'approche avec colère. Devant la menace, devant la porte fermée du prophète, le message du roi est plus atténué que sa menace initiale. Il accuse Élisée, il dit son désarroi, tout ce mal vient de l'Éternel, que puis-je encore attendre de lui ? On le sent seul, le roi, à la dérive. Il s'est coupé du vrai recours par sa colère. Il parle en plus à une porte fermée maintenant. Ses accusations contre Dieu deviennent finalement le lit de son propre désespoir. C'est alors que la parole d'Élisée s'élève, haute, claire. Elle s'adresse en direct au responsable de la ville venu auprès de lui dans sa maison. Le roi et son émissaire ne la reçoivent qu'à travers la porte fermée. Mais la promesse est forte, nette, inattendue. Elle annonce un renversement complet, imminent. Écoutez ce que dit l'Éternel. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent, 20 kilos d'orge pour le même prix. C'est l'annonce de la fin du siège, d'une abondance de nourriture qui ferait bien sûr chuter les prix, le renversement total par rapport à ce que vivaient les assiégés, leur délivrance enfin. Savourons cette parole. savourons cette annonce, cette parole haute et claire dans une situation de détresse. Elle dit l'abondance des ressources du Seigneur là où nous n'avons plus rien. Elle dit que le Seigneur est infiniment plus grand que nos désespoirs. Elle dit qu'il vaut la peine de chercher le Seigneur, comme l'ont fait les responsables de la ville qui sont venus auprès d'Élisée. Et quand on pense à cet Élisée debout, capable d'avoir une telle parole, alors que Samarie est encore encerclée, on pense à d'autres situations où des croyants ont vécu cela. L'apôtre Paul, debout dans un navire malmené depuis des jours et des jours par une terrible tempête, et qui peut dire « N'ayez pas peur, le Seigneur est là, il nous sauvera. » Le Seigneur est infiniment plus grand que nos désespoirs, infiniment plus grand que nos situations qui nous insécurisent totalement. J'imagine, après cette parole d'Élisée, un silence de respect, de gratitude, de soulagement indicible. Il faut laisser cette chose rentrer un peu dans sa tête. Demain, la fin du siège. Mais ce silence est rompu par une parole de l'autre côté de la porte. Elle se veut sûre d'elle, cette parole. C'est l'aide de camp du roi. Même si l'Éternel perçait des trous, des fenêtres au ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ? Parole d'incrédulité moqueuse. En rajoute-t-il pour plaire au roi ? Exprime-t-il ses propres sentiments ? Toujours est-il qu'on a fait un pas de plus dans le désespoir. Après la question du roi qui disait « Mais que puis-je encore attendre du Seigneur ?» C'est à présent un front du refus. Même si Dieu annonce une issue, même si Dieu annonce une solution, je n'y crois pas. Et on découvre ici comme un reflet de l'incrédulité de tant de personnes aujourd'hui par rapport à Dieu, à l'idée d'un salut qu'il pourrait apporter. On a tant besoin de ce message du salut comme cet homme dans sa ville assiégée, mais on préfère prendre cela de haut, faire le fier, plutôt que d'écouter le message de la bonne nouvelle donnée par le Seigneur. C'est ici la figure du moqueur dont la Bible parle souvent. L'apôtre Pierre nous avertit qu'ils seront nombreux. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, leur propre désir. Et ils disent, mais où donc est la promesse de son avènement ? Il y a beaucoup de suffisance dans le discours des moqueurs, de ceux qui regardent de haut le message de l'Évangile. Mais tristement, ces discours reviennent à couper la seule branche de salut, la seule branche qui pourrait assurer le salut. La sentence d'Élisée à cet égard, à l'égard de cette aide de camp, est sans appel. Et là, j'imagine que pour lui dire cela, certainement, il a dû ouvrir la porte de sa maison pour une parole claire et directe. Tu verras de tes propres yeux que ce que je dis se réalisera, mais tu n'en mangeras pas. Comment viendra la délivrance annoncée? Nous l'avons lu, par des moyens inattendus. Le récit distingue deux moyens. L'action décisive de la délivrance, c'est le Seigneur qui l'assure. Il fait entendre aux Syriens, sur le soir, un grand bruit qu'ils interprètent comme le bruit d'une armée ennemie nombreuse, venue certainement en renfort pour délivrer Samarie. La rumeur se répand comme une traînée de poudre, et comme cela arrive assez vite, une rumeur peut très vite faire saisir de panique tout un groupe, et c'est ce qui se passe pour le camp des Syriens. Toute l'armée prend la fuite comme un seul homme, abandonnant le camp tel qu'il était. Dans toute œuvre du salut, il y a ce que Dieu seul peut faire. Et nous savons que pour nous aussi, pour nous sauver du désespoir le plus fondamental, celui qui touche à notre destinée éternelle, le Seigneur Jésus est venu lui aussi, s'est donné pour nous, a triomphé de toutes les puissances du mal et de la condamnation par sa mort et sa résurrection. C'est l'œuvre décisive de Dieu, celle que Dieu seul peut faire. Il est fidèle, il l'accomplit. Mais cette œuvre décisive manque à deux reprises d'être réduite à rien dans notre récit. Le camp des assiégeants est vide, mais personne à Samarie ne le sait. Qui annoncera la nouvelle aux habitants de Samarie? Il faudra l'initiative de quelques hommes, nous l'avons lu, des lépreux, qui étaient déjà rejetés hors des murs de la ville. Ils ont faim, ils n'ont plus grand espoir. Ils décident de tenter quelque chose, de demander la pitié, qu'on ait pitié d'eux là-bas. Ils savent qu'ils ne sont de toute façon bienvenus nulle part. Ils essayent malgré tout de demander grâce. Et c'est là qu'ils découvrent, stupéfaits, éblouis, complètement scotchés, une tente, deux tentes, tout un camp vide, délaissé. Tout est là, profusion, nourriture, effets personnels, richesses, armes, un butin fabuleux. Leur premier réflexe est de tout saisir, de manger à n'en plus pouvoir, de cacher une partie du butin pour le garder pour eux. C'est trop beau, inespéré. Comment ne pas en profiter? Et soudain, nous l'avons lu, ils s'arrêtent. Car tout d'un coup, ils commencent à mesurer l'ampleur et la vraie signification de ce qui s'est passé. L'importance que revêt cette délivrance pour toute la ville de Samarie. Et là, dans leur premier réflexe de penser à eux, les voilà repris dans leur conscience. On ne peut pas garder ça pour nous tout seuls. Ce serait injuste, ce serait moralement inacceptable. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, si nous attendons qu'il fasse même grand jour pour la publier, le châtiment tombera sur nous. Ces hommes soudain sont repris, repris par le sens de leur responsabilité. Car ils ne sont pas seuls à avoir faim, ils ne sont pas seuls à avoir souffert du siège de la ville. Cette bonne nouvelle n'est pas simplement leur bonne nouvelle, elle concerne tant de gens dans la ville. Ils ne peuvent pas moralement garder ça pour eux tout seuls. Leur attitude est admirable. Ils auraient toutes sortes d'excuses pour ne pas annoncer cette nouvelle. Après tout, depuis des années, ce sont des lépreux, des rejetés, des parias. Pourquoi se préoccuper des gens de Samarie? On ne s'était pas beaucoup occupé d'eux, les lépreux. En plus, personne ne les a vus. Mais en soi, l'événement est trop important, trop vaste, pour se limiter à une jouissance égoïste. Et ils ont le mérite de comprendre cela et de s'en laisser saisir. Je pense que cela peut nous arriver aussi, même si nous ne nous retrouvons pas dans le même genre de situation. Mais imaginez que d'une manière un peu inespérée, inattendue, vous receviez, vous soyez en possession, je ne sais pas, d'un billet de 500 euros. Vous le trouvez, vous le donne alors que vous n'y attendez pas, etc. C'est immense, inespéré. Vous avez, en ce qui vous concerne, de quoi vivre. Et vous apprenez tout d'un coup que parmi vos voisins, il y a une famille de 4 enfants qui est en situation précaire. Immanquablement, le choc des événements fait jaillir aussi la question de la responsabilité. N'est-ce pas de mon devoir de faire au moins quelque chose, moi qui ai reçu comme cela? N'est-ce pas de mon devoir de responsabilité de faire quelque chose, même si personne d'autre que moi ne sait que j'ai reçu cet argent? Ces 4 lépreux font le bon choix. Ils écoutent la voix de leur conscience, ils acceptent leur responsabilité, ils donnent sa vraie dimension à l'événement de la délivrance. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas la garder pour nous tout seuls. La correspondance de la situation de ces lépreux avec la nôtre en tant que chrétiens dans ce monde est évidente. Nous avons découvert en Jésus-Christ toutes les richesses de son salut, toutes les richesses de son pardon, toutes les richesses de l'espérance qui s'attache à son appel. Comme ces lépreux, nous n'avons rien fait pour être dignes de cette découverte. Elle est au sens le plus fort du terme une divine surprise, un don inespéré. Nous n'avons rien fait pour tout recevoir de Dieu. Mais en même temps, cette œuvre du salut accomplie en Jésus a une portée et une voilure qui ne peuvent se réduire simplement à nous-mêmes. Ce serait la trahir que de dire que cette œuvre n'est là que pour nous. Elle concerne tant de monde, tant de personnes qui en ont besoin tout autant que les habitants de Samarie avaient besoin de la bonne nouvelle, de la délivrance, avaient besoin de la nourriture qui leur manquait si cruellement. Et pour nous aussi, la question se pose par rapport à cette grande nouvelle. Qu'allons-nous faire? Pouvons-nous garder cette bonne nouvelle, en réduire la voilure à nous seuls? Laissons cette pensée nous habiter, nous saisir. Ayons à cœur de ne pas réduire la voilure de la bonne nouvelle du salut. Soyons les joyeux porteurs de cette bonne nouvelle, en mesurant aussi qu'elle est si importante, si bienfaisante, si nécessaire à tant de personnes autour de nous. La suite du récit nous montre quand même que même lorsqu'on est porteur d'une aussi bonne nouvelle, on n'est pas forcément bien reçu tout de suite. On voit le roi d'Israël, en tout cas, être un peu suspicieux. Il craint un piège, il craint une manœuvre des Syriens. Il hésitera même à envoyer des éclaireurs. Il faudra du temps pour qu'il puisse être convaincu que cette bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle. Autrement dit, chacun doit faire son chemin. Les lépreux ont fait leur chemin en tant que témoins de la bonne nouvelle. Le roi et les responsables de Samarie doivent faire leur chemin eux aussi vers cette bonne nouvelle. Tout n'est pas toujours évident, même avec une aussi bonne nouvelle que cela. Et nous pouvons comprendre peut-être à la lumière de ce texte les difficultés de certains de nos contemporains avec le message de l'Évangile. Certains ont peur d'être trompés, d'autres sont déroutés, c'est si nouveau, si différent de leur manière de penser. Ils ont à faire leur chemin. Nous avons à demander la grâce d'être pour Dieu, pour eux, des témoins, des repères, des aides sur ce chemin qu'ils ont aussi à faire eux-mêmes. En tout cas, le récit se termine par la délivrance de Samarie, la découverte que la parole extraordinaire d'Élisée s'est accomplie, malgré toutes les apparences qui semblaient contraires au moment où elle a été prononcée. Le peuple de Samarie goûte combien le Seigneur est bon. Au milieu de cette liesse, cependant, un bémol. L'aide de camp du roi, qui s'était moqué de la promesse, est écrasé aux portes de la ville par la foule qui se précipite vers le butin. Triste fait divers pour les uns, ça arrive. Mais sérieux avertissement pour ceux qui avaient entendu les paroles et la réponse d'Élisée. Se moquer de Dieu, c'est s'exposer à se voir un jour passer à côté définitivement et irrémédiablement de la délivrance finale que le Seigneur a promise à ceux qui mettent leur foi en lui pour leur salut éternel. Veillons à ne pas être de ce côté-là surtout. Revenons sur nous-mêmes, revenons à Dieu si jamais nous nous sommes laissés entraîner du côté de la moquerie ou d'une négligence de la parole de Dieu. Dieu sait pardonner. Il fait grâce aux humbles, même s'il résiste aux orgueilleux, ce que ce texte nous rappelle également. Mais ce texte nous rappelle que rien n'est étonnant de la part du Seigneur, dont nous ne saisissons pas toujours toutes les voies. Ayons confiance dans sa parole, dans ses promesses. Laissons-la être le phare et le repère de notre vie et donnons force, donnons sa juste voilure à la bonne nouvelle de sa promesse, de son salut, de son action envers nous. Aujourd'hui encore, nous pouvons dire, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, ce jour est un jour de bonne nouvelle. Qu'elle nous habite pleinement, cette bonne nouvelle, pendant toute cette année qui s'ouvre, cette année scolaire, et tant que nous pourrons dire aujourd'hui. Amen.